Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde.
Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, super, on entend encore les petits oiseaux, j'adore. Parce qu'il faut que je vous explique. Parce que quand j'arrive dans le studio, formidable studio du Centre Saint-Pierre d'animation à Bordeaux, du studio de radio, il y a déjà la petite, le petit fond de petites chansons d'oiseaux,
oui,
de petits, de petites natures. Oh, et tout de suite, alors que j'ai traversé presque tout Bordeaux pour venir jusqu'ici, donc j'ai pris le bus, les embouteillages, les gens, enfin voilà, etc. Les noms d'oiseaux qui volent, tout ça, etc. Eh bien, on arrive là et tout de suite, j'entends ça, détendu. Formidable. À chaque fois, je suis tellement bien accueillie par ces petits trucs. Pas besoin de cacher, hein. Juste ça, voyez. Comme dirait Christophe, mais tu prends
chose.
Des cachets. Non, non.
Pas grand-chose, Valérie.
Pas grand-chose. Voilà, le bruit de la nature et c'est bon. Et donc, aujourd'hui, 30 mai, on va parler... ben oui, c'est déjà la fin du mois de mai. Alors, je sais que vous allez pleurer parce que ce mois de mai a quand même 2024 a été formidable pour tout le monde puisqu'il a vu passer des ponts et des reponts et des jours de congés et des semaines à rien foutre à partir sur les routes. Le pont quand même, là, des 4 jours, là, avec des milliers de kilomètres,
oui,
des centaines de kilomètres de bouchons.
On a parlé la dernière fois.
Mais Total Energy a bien raison de continuer à augmenter son essence. Vu qu'on est encore sur les routes, c'est qu'il y a de la marge. Allez, allez, Total Energy continue, augmente encore les prix. On est encore sur la route, alors tout va bien. Moi, je te dis que pour certains, la transition va être dure. Mais bon... Alors, donc, oui, alors, je vais vous raconter, je suis allée, pour la radio, je suis allée par curiosité curieuse, je suis allée au salon des maires, alors que je vous dise bien, le salon des élus locaux et agents publics de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, le salon des maires et des agents publics de la Nouvelle-Aquitaine. Il y en a un à Paris, m'a expliqué l'organisatrice, et il y en a un à Bordeaux. Qui s'est passé dans le pavillon Atlantique 2, à côté de à Bordeaux Exposition, là au fin fond, à côté de Manmut et l'Atlantique. Donc ça s'appelle le CELAC, voilà, pour le résumé, le Salon des élus locaux et agenda, et le 22 mai. Donc c'était ouvert de 8h30 à 19h. Il y avait des ateliers. Et il y avait aussi des stands. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Donc, moi, je suis arrivée là-bas à 11h. J'ai traversé aussi tout Bordeaux. J'ai mis 1h30 parce que j'arrive de Pessac. Donc, j'ai pris mon petit bus. Après, j'ai pris mon petit tram A à Palais de Justice. Et après, je suis allée récupérer le tram C. Pour aller direction Terminus, quoi, du parc d'exposition. Donc, ça m'a pris 1h30 de trajet. Voilà. C'est là que tu te dis que quand même, tu es bien vert, parce qu'en voiture, ça m'aura pris 20 minutes par la rocade.
Oui.
Bon, bref.
C'est comme la nature, t'as pris ton temps. Hein.
Et voilà, j'ai pris mon temps. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de traverser ce magnifique quartier Ginko que nous étions allés voir avec Samuel visiter.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle.
Qui est quand même une plaque chauffante à ciel ouvert et qui n'a aucune... Alors que c'est au bord d'un lac et qu'il y a un potentiel de malade, n'a pas de connexion avec la nature. C'est extrêmement... c'est un truc qui est hors sol et qui n'a aucune connexion avec la nature qui est environnante, le lac qui est tout près, enfin, etc., alors qu'il y aurait des belles choses à faire. Donc, j'ai traversé notre petit quartier, toujours aussi fantôme, hein, où les gens ne font que traverser aussi, hein, ne s'arrêtent pas. Et puis, je suis arrivée donc là. Alors, je vous raconte, donc, le pavillon Atlantique, c'est pas dans le grand bâtiment de Bordeaux des expositions. C'est un bâtiment à côté, très joli, qui fait un genre pagode, un petit peu, genre, un peu chinois, là, pagode, très, très sympa, un nouveau bâtiment. Donc, d'abord, la sécurité, hein, on montrait son sac, on montre pas de blanche. Une fois que j'ai montré que j'avais pas grand-chose dans mon sac, on rentre. Et puis alors là, les hôtesses, avec leur petit badge, là, qui scannent le QR code, parce que c'était sur inscription, mais c'était gratuit. C'était gratuit. Donc, quand même, pour savoir qui c'est qui rentre. Qui, voilà. Donc, hop, petit scannage. Donc, vous voyez, un mur d'hôtesses, voilà, une grille d'hôtesses. Voilà, un portail avec plein de petites hôtesses et des auteurs. Comment on dit hôtesse en masculin ?
Des hôtes.
Des hôtes ? Des hôtes et des hôtesses ?
Oui.
Sûrement. Alors, des hôtes et des hôtesses, voilà. Et j'ai suivi la tribu des costards cravates qui sont rentrés, là. Ils se connaissaient à peu près tous, ou en tout cas, ils s'étaient déjà croisés.
C'était que des élus ou tu avais aussi des chefs de service
ou... mais je pense qu'il y avait de tout, en fait. Je ne les connais pas tous, hein. Il y a quand même 28 communes et intercommunalité Bordeaux Métropole, donc ça parlait de tout ça. Donc, je ne les connais pas tous. Mais est-ce qu'il y avait des maires ? Oui, je sais qu'il y en avait au moins un. Il y avait M. Hermic qui a fait un discours de bienvenue. Et puis après, il y a sûrement d'avoir d'autres maires de petites communes que je ne connais pas, etc. Et puis des agents et tout ça, etc. Et des chefs des cadres, des responsables. C'était très... Alors voilà. Alors donc on rentre dans cette pièce. Alors voilà. Alors pour tout vous raconter, parce que on est en toute transparence et indépendance ici. D'abord, je suis allée aux toilettes parce qu'une heure et demie, faut pas déconner. Voilà. Hein, nous les filles. Connaissez, donc voilà, donc fidèle à la représentation des filles, je suis allée faire un petit tour aux toilettes d'abord, et puis après je me suis lancée dans le grand bain. Alors imaginez une grande pièce avec des stands comme pour la foire expo de Bordeaux au public, où il y a des petits stands qui vendent des choses, etc. Donc il y avait 4-5 allées en fait, à peu près, ouais c'est ça, 4-5 allées. Peut-être un peu plus. Oui, bon, bref, 1, 2, 3, ouais, peut-être. Bon, bref, avec des petits stands, avec le nom écrit sur un bandeau, en l'air, etc. Donc, vous aviez un petit peu de tout. D'ailleurs, on vous fera la liste. Et il y avait aussi des entretiens. C'est-à-dire qu'il y avait un village au fond où ils avaient fait un genre de cirque, pas de cirque, mais bon, bref, si, c'est ça, ça s'appelle ça comme ça, là où dans l'ancien temps on venait faire des joutes oratoires, voilà, c'est en rond là, je sais plus comment ça, voilà, j'ai perdu le mot, bon, bref, vous avez compris, où on pouvait faire, il y avait des entretiens. Donc à 9h15, il y avait que Jean-Luc Glaise qui devait parler, président du conseil départemental de la Gironde, qui devait parler de l'handicap. À 10h15, nous avons notre nouvelle présidente de Bordeaux Métropole, maire des Innes, Christine Bost, qui a parlé de Bordeaux Métropole. À 11h, il y a eu Étienne Guillot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, donc il y avait aussi du préfet, donc de la tenue militaire, qui a parlé de l'accompagnement des collectivités par l'État. Donc moi, je n'étais pas là, hein, je suis arrivée après. Donc j'ai raté tous ces entretiens. Voilà, sur la place du village, voilà, c'était une place du village. À 14h30, il y avait Alain Chrétien, maire de Vesoul, qui parlait de l'assurabilité des collectivités locales, donc je suppose que c'est les assurances. À 15h15, il y avait Muriel Boulmier, présidente de l'URHLM de Nouvelle-Aquitaine. Que peut faire l'URHLM pour les élus locaux ? Bonne question, on ne sait pas que c'est, ça doit être les HLM. Et après, à 16h, il y avait Stéphane Feiffer, qui est l'adjoint au maire de Bordeaux, chargé de l'urbanisme résilient, le rôle des collectivités dans l'économie sociale et solidaire. Et à 16h45, vous aviez Brice Paquet, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires, l'accès des collectivités pour le financement de la transition environnementale, qui est quand même un sujet extrêmement d'actualité et qui va le devenir de plus en plus. Est-ce que nous avons assez de sous pour réaliser cette transition ? Et à 17h30, il y avait Christophe Duprat, trésorier de l'association des maires de Gironde, maire de Saint-Aubin-du-Médoc. Donc, il parlait, bien sûr, de l'association des maires de Gironde. Voilà. Et puis après, il y avait peut-être un petit pot de départ ou un petit buffet pour dire voilà. Donc moi je suis allée par curiosité parce que on se posait la question il y a quelques émissions de ça avec Samuel quand il y a eu le salon des maires à Paris, de savoir comment ça se passait dans ces genres de salons. Et si ils venaient faire leur marché, comme nous, on va faire le marché quand on va à la Foire Bordeaux Expo classique, et qu'on a les, comment ils s'appellent, les démarcheurs là, qui vendent tout et n'importe quoi,
oui.
Le balai qui essuie tout, qui nettoie tout, l'appareil qui coupe tout, etc. Donc, on voulait savoir, moi, si c'était pareil, c'est-à-dire qu'ils venaient et puis ils faisaient leur petit template, etc. Eh bien, pas du tout. Parce que, en fait, c'est très réglementé. Donc, il y a des appels d'offres, etc. Donc, les gens qui étaient là, et c'était surtout pour se faire connaître auprès des élus locaux et des agents locaux, et pour échanger des cartes de visite et des rendez-vous, prendre des rendez-vous, etc. Donc, on avait de tout. On avait de la mutuelle. Beaucoup de mutuelles pour les agents et pour les maires.
D'accord.
Parce que c'est un boulot quand même qui est assez... c'est un boulot difficile, hein, donc il faut une bonne mutuelle. On avait de la mutuelle, on avait aussi des banques, voilà, la caisse d'épargne, etc., le Crédit Agricole. On avait aussi des constructeurs, aménagement et équipement.
D'accord.
Beaucoup de constructeurs. Moi, je suis allée à voir NGE, les nouvelles générations d'entrepreneurs. Vous devez les voir parce qu'ils font beaucoup de travaux de réseau de chantier et ils protègent les arbres avec un petit polystyrène où il y a marqué NGE, la nature, c'est nous, un truc comme ça. Et puis, il y avait Colas aussi parmi les constructeurs. Alors là, et j'ai appris un truc formidable dont je vous parlerai plus tard. Ils font de... comment ils appellent ça? Parce qu'il faut toujours des noms, hein, parce que c'est ça, formidable. Les concepts, ça a besoin de noms. Donc, ils font de, des travaux de génie écologique. Alors, qu'est-ce que c'est les travaux de génie écologique? Oh, accrochez-vous. Donc, ils font des travaux de génie écologique. Donc, il y avait des constructeurs, il y avait Lafarge, que je suis allée voir, parce qu'ils avaient un grand... comment ça s'appelle, ça?
Kakimono.
Kakimono, qui disait un truc sur que la nature et la biodiversité, c'était leur dada. Un truc comme ça, quoi. J'ai oublié le truc. Donc, je suis allée les voir parce que ça m'interpellait. J'ai dit, tiens, la nature, la farge, les bétons, c'était leur dada. Et en fait, c'était la filiale granulat, c'est-à-dire tous les sables, les cailloux, les graviers, etc. Donc, les carrières, en fait. Et je suis tombée sur un monsieur qui s'appelle... alors, attendez, je retrouve la carte... Il m'a donné sa carte pour que j'aille voir des sites. Je vais dire juste son prénom, sur Thierry. Voilà, je suis tombée sur Thierry, technico-commercial Aquitaine, à la Farge Granulat. Et donc, je lui ai expliqué que je faisais une émission sur la nature et que j'aurais aimé avoir son point de vue sur la nature. Eh bien, on a eu une discussion extrêmement intéressante. Alors, les granulats, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils occupent des territoires... Et ils creusent, ils font des carrières en fait pour enlever le sable, pour récupérer le sable, le gravier, les choses comme ça. Et une fois que la carrière n'a plus rien à leur donner, si vous voulez, et où ils ont tout pris, ils transforment ce territoire en refuge de biodiversité. Donc il m'a parlé de quelques-uns de ces sites qui ont été d'abord des carrières et qui maintenant... sont des espaces très riches de nature et de biodiversité, comme, je ne sais pas si vous les connaissez, les Daguets à Libourne, le site carrière qui a été réhabilité, le site a été même rétrocédé à Bordeaux Métropole ou à Libourne. Il y en a d'autres, à Blanquefort aussi. Il y a eu un réménagement d'une carrière à côté du parc de la Jalle ou sur le parc de la Jalle qui a permis justement de refaire de la nature. Donc en ce sens, et on a parlé bien sûr du béton et de cette fameuse attaque de l'usine à béton avec les destructions. Eh bien écoutez, lui, bien sûr, M. Thierry, lui, il était outré. Il ne comprenait pas qu'on puisse détruire... un outil de travail, parce que c'est quand même d'abord à la base pour eux un outil de travail. Et il m'a expliqué, le béton, il y en a partout, les gravats, il y en a partout, vous roulez dessus, avec leur vélo, ils roulent sur les routes, avec ici, etc., etc., etc. Et c'était très touchant, il en avait les larmes aux yeux. On sent bien ce monsieur qui aime extrêmement beaucoup son travail et qui, de bonne foi, pense qu'il fait des choses pour l'avenir de la planète aussi, pas que les écolos, comme il dit. Il n'a pas compris en fait cette violence face aux bâtiments de Lafarge. C'était très intéressant. Et il en avait les larmes aux yeux. On sentait bien qu'il était ému, voilà, de qu'on le prenne pour un méchant en fait, ou pour un salaud. Et ça, c'est peut-être une vision de l'autre que peut-être certains n'ont pas. C'est bien aussi de... Moi, j'aime bien. De toute façon, c'est ma façon de travailler ici à Solutions Nature et partout. J'aime bien comprendre l'autre aussi. Même s'il est en face et qu'il n'a pas les mêmes idées que moi ou qu'il n'a pas la même vision que moi du monde.
Tu penses qu'il était sincère dans ce qu'il disait ?
Ah bah écoute, il avait les larmes aux yeux, quoi. Alors ouais. Soit c'est un super bon comédien, ce que je pense pas, parce que comme ça, au déboté, tout ouais. d'un coup, il ne savait pas quelle question j'allais lui poser. Non, il était vraiment touché par cette... pour lui, qu'il a pris ça pour une agression, en fait, le fait, la manifestation à Lafarge et le fait qu'ils attaquent l'usine. Et il y a eu 2 millions de... Il m'a dit, oui, il y a eu 2 millions quand même de travaux, de réparation, de dégradation, etc., etc. Donc lui, il était au granulat et il était vent debout sur ça parce qu'il ne comprenait pas. Qu'on puisse s'attaquer à l'outil de travail. Donc c'était très intéressant. Donc du coup on a bien sympathisé aussi parce que après tout c'est un humain comme moi et on est dans le même bateau. Et je lui ai demandé s'il viendrait parler justement de son métier et de son cœur de métier qui lui pour lui est les granulats. Donc qu'est-ce qu'on fait avec des granulats ? On fait par exemple des bacs à sable. Dans les collectivités, si vous voulez. On fait des routes, sur D'accord. les routes, etc. Donc, voilà, c'est vous retrouver, en fait, c'est ce qu'il me disait, vous retrouvez les gravats, les sables, etc., vous les retrouvez partout dans la ville, partout dans les usages, partout où vous en avez, où vous roulez, où vous marchez, où vous achetez un truc, etc., il y en a partout, quoi. Donc, d'où leur importance. Et peut-être d'où aussi son incompréhension d'être maltraité comme ça. Ça serait marrant peut-être de justement de les mettre en vis-à-vis et qu'ils s'expliquent.
Oui, peut-être de le recevoir un de ces jours.
Voilà. Donc oui, je lui ai proposé de le recevoir un de ces jours à Thierry. Il m'a dit oui, d'accord, etc. Donc il viendra parler de son métier. Et je lui ai dit, parce que c'est aussi en étant toute transparence, j'ai dit, vous savez, je pense que je poserai aussi des questions qui piquent. Et bien sûr, on ne peut pas poser que des questions qui vont bien. Alors,
oui,
il m'a dit,
sûr.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit, tant que vous n'êtes pas 10 écolos extrémistes à m'attendre, j'ai dit, non, j'ai dit, il n'y aura pas de ça du tout. Il n'y aura pas de ça du tout. Donc je me suis arrêtée à Lafarge parce que voilà et puis après j'ai fait mon petit tour, j'ai écouté monsieur Urmic qui a fait un discours pour remercier tous les maires et puis l'association des maires de Gironde pour avoir organisé cet événement et j'ai continué à faire mon petit tour. Alors qu'est-ce que vous avez ? Vous avez aussi des énergéticiens, donc EDF, Enedis, Dalkia, Total Énergie et GRDF. Je ne me suis pas arrêtée. Total Énergie, Bordeaux Métropole Énergie, enfin voilà, donc etc. Vous avez aussi des paysagistes. Il y avait un stand de paysagistes qui fait une opération qui s'appelle Un école, un arbre. Alors c'est marrant parce que ça me rappelait quelque chose. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Une école, un arbre. Donc le principe, c'est que dans une cour d'école, ils offrent la plantation d'arbres dans les écoles primaires de Nouvelle-Aquitaine. Donc vous avez un jeu où vous pouvez participer. Et il y a un professionnel du paysage adhérent au syndicat qui vient et l'entreprise vient planter l'arbre en présence des élèves de l'école. Voilà, à cet hiver, quoi, en 2004-2005. Donc vous pouvez jouer encore. Vous trouverez ça sur le site slash vu.fr, zxg, je ne sais pas. Bon, il faut scanner le, essayer de regarder sur les entreprises du paysage, leur site, s'il n'y a pas cette opération une école un arbre, si vous êtes directeur d'une école primaire. Et alors c'était marrant parce que ça m'a rappelé quelque chose, parce que du temps où j'étais au GNSA, au groupe national de surveillance des arbres, on avait fait une campagne comme ça, mais ça s'appelait un arbre, une école. Et c'était pareil, c'était pour inciter les gens, et on avait commencé avec Bordeaux en plus, pour inciter les gens à planter les maires, etc., à planter des arbres dans les écoles. Et tout de suite, elle m'en a parlé, elle m'a dit oui, mais c'est un arbre, une école, c'est pas pareil et tout, etc. Bizarre. Je lui ai dit, ah, mais ça me rappelle le truc du... Oui, un arbre, une école, mais c'est pas pareil. Voilà, alors c'était drôle. J'ai dit, de toute façon, je ne sais pas où ça en est, cette campagne du GNSA. Il faut aller regarder sur leur site, du GNSA. Donc, des paysagistes. Et ensuite, vous avez aussi des installateurs d'éoliennes, il y avait, et des installateurs de parcs photovoltaïques. Alors, c'est très décrié en ce moment, le parc photovoltaïque, surtout dans notre région, parce que vous avez Oriseo, là, du côté de Soukats, qui va bouffer pas mal de mètres carrés de nature. Et puis, vous en avez plein aussi qui coupent des arbres pour y mettre des centrales photovoltaïques, alors qu'on a besoin de la nature et des arbres, quoi. Donc, c'est comme... Est-ce que, du coup, on va... alléger notre dette climatique, ou est-ce qu'on va ne faire que l'augmenter en faisant comme ça? C'est la question qui se pose. Seulement, on n'a pas de marge pour y répondre, quoi, parce qu'on va avoir la sanction tac, tout de suite, et vachement violente derrière. Il n'y aura pas de marge. Donc, il ne faut pas se planter. Donc, je me suis arrêtée chez Valorem parce qu'ils sont vertueux. C'est-à-dire que déjà, quand ils repèrent un territoire, ils font toutes les diagnostics qu'il faut et les études qu'il faut sur la nature, écologue, etc., pour qu'il n'y ait aucun impact, enfin le minimum d'impact sur l'espace naturel. Après, le monsieur m'a dit qu'il s'appelle Hugues de Valorem, il m'a dit que aussi, quand ils ont un espace naturel qui est à leur disposition, ils ne remplissent pas tout l'espace en fait. Il laisse beaucoup d'espace libre et de terre, de pleine terre et de terre à la nature, en fait. Il comble pas. C'est pas comme des promoteurs qui vont au bord de la limite donc, qu'ils ont de l'emprise dont ils ont le droit de bétonner. Eux, ils font de manière assez raisonnée. Et donc, ils envahissent pas tout le territoire qui leur est proposé. Après, ils essaient que ça soit aussi couplé avec de l'agriculture. Donc là, vous avez des photos sur leur petite plaquette de flyers où c'est dans un champ où il y a des moutons. Et les moutons, quand il fait beau soleil, ils vont s'abriter à l'ombre sous les panneaux photovoltaïques. Alors on comprend très bien, hein, mais là vous avez des photos aussi. Par exemple, vous avez toute une rame de photovoltaïque et puis à côté un bois magnifique. Et c'est moche. Voilà, c'est tout. C'est moche. Question paysage, c'est pas esthétique. Alors, quelle est la solution, bien sûr? La solution, ce serait peut-être de mettre des panneaux photovoltaïques partout sur ce qui est déjà industrialisé et déjà artificialisé. Donc, mettre ça sur toutes les toits des maisons, mettre ça sur tous les parkings, mettre ça sur toutes les immeubles collectifs, les écoles, les mairies, les machins, les bidules, les trucs, les usines et tout. Je pense qu'il y aurait assez de mètres carrés et d'hectares de surface pour mettre des panneaux photovoltaïques là. Mais comme les détracteurs de ces panneaux photovoltaïques dans la nature, je parle bien dans la nature, le disent très bien, c'est comme pour les promoteurs. C'est plus facile de construire sur un espace naturel et de mettre des panneaux photovoltaïques sur un espace naturel que sur un espace déjà occupé, parce que ça coûte plus cher, bien sûr, et donc du coup la marge est moindre. Et donc pour cause économie, on continue à péter même de manière raisonnée et vertueuse, comme pour monsieur Hugues, on continue à péter des forêts et on continue à artificialiser des espaces naturels. Alors j'ai posé la question, justement, est-ce que un parc photovoltaïque, est-ce qu'il est considéré, est-ce qu'il fait partie de la loi ZAN, est-ce qu'il est considéré comme étant faisant partie de l'artificialisation, c'est-à-dire ce qui compte dans les mètres carrés artificialisation. Et oui, voilà. Donc ça fait partie d'un truc, c'est artificialisé en fait, même si ça touche pas le sol, même si c'est des trucs légers qui sont peut-être... parce que en fait les poteaux c'est du béton, les poteaux qui les supportent, donc il y a une emprise au sol. Voilà, donc je sais pas, est-ce que ce serait pas plus intelligent de mettre les panneaux photovoltaïques là où on en a besoin, c'est-à-dire dans les villes. Puisque, voilà, comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de transport d'énergie, ça va directement chez la personne. Et voilà, et du coup, on paye tous les toits possibles, sauf peut-être les édifices historiques et patrimoniaux, devraient être équipés de panneaux photovoltaïques pour laisser les forêts faire ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire nous sauver la gueule. Bon, bref, donc... je suis allée voir Valorem. Et puis après, c'était très intéressant avec Hugues. Je suis allée voir, je suis passée à Acté. Alors Acté, personne ne sait ce que c'est. Acté, en fait,
oui, c'est quoi,
Acté, c'est un groupement qui aide à financer les collectivités pour leurs projets. Voilà. Et ça s'appelle Acté, c'est accompagnement financier et ressources. C'est un genre d'une grande banque financée à accompagner la rénovation énergétique des bâtiments publics. Voilà, c'est ça, Acté. En fait, ils ont une cagnotte, ils ont une enveloppe, et ils la dispatchent à toutes les mairies ou collectivités qui en ont besoin pour financer leur transition écologique et la rénovation énergétique des bâtiments. Ils étaient trop mignons. Il y avait un monsieur et une dame. Et on a bien parlé. C'était très sympa. Ils sont situés à Paris. Et donc, mais ce n'est pas très connu. En même temps, c'est normal, puisque c'est pour le public mairie. Donc, on ne peut pas les connaître. Et alors, formidable action. Il y avait une question qui nous taraudait depuis plusieurs émissions déjà. Qu'on avait déjà remis sur la table plusieurs fois, et qui est... Je te laisse nous livrer la question. C'est toi qui t'interrogeais sur ce fait-là.
Alors voilà, la question.
Voilà, alors c'était quoi? Tu t'interrogeais sur quoi, en fait?
Sur les poteaux, justement. Ouais, les poteaux. Ce qu'ils appellent les poteaux, les potelés, là.
Les poteaux qui sont sur les trottoirs, qui empêchent les voitures de se garer sur les trottoirs.
Régulièrement, la réglementation sur la hauteur, la largeur, les longueurs, tout ça... change. Est-ce que c'est justement pour renouveler régulièrement, pour que les villes soient obligées de renouveler régulièrement le parc de leurs poteaux et de leurs barrières?
Eh bien écoutez, vous savez pas, au détour d'un stand, je me suis arrêtée chez VMH et je suis tombée sur le directeur commercial et sa représentante, sa responsable marketing, et je leur ai posé la question. Et je vous dirai ça après la musique.
Allez. Restez avec nous sur Wanted Radio pour découvrir...
La réponse, enfin, au bout de plusieurs mois d'attente. Le suspense est à son comble.
Allez, on écoute ça. Restez avec nous. musique, Valérie.
Merci, merci. Merci. Donc, écoutez, retour donc au salon des élus locaux et agents publics de Nouvelle-Aquitaine que je suis allée voir ce 22 mai qui se faisait au parc des expositions de Bordeaux dans un, comment dire, un bâtiment à côté, là, le bâtiment Atlantique 2, etc. Et j'y suis allée par curiosité parce que je voulais savoir comment ça se passait. C'est un genre de répétition peut-être du grand salon qu'il y a à Paris. Et en fait, c'est comme le salon de la Foire Expo avec des stands, mais des stands bien sûr qui concernent que les maires et les élus et les collectivités. Donc j'étais un petit peu déçue, j'avoue. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un truc de fou, tu vois, ça pète de part, machin, etc. Les phares d'artifice, je ne sais pas, enfin, un truc. Non, mais non, mais non.
Je fais le suspense.
Donc, la réponse, pourquoi les poteaux? Alors, j'ai posé la question à une entreprise VHM qui fait les équipements. Ils m'ont dit, en fait, que c'était le cône de visibilité. Alors, c'est quoi le cône de visibilité? Le cône de visibilité, c'est un cône, comme vous voyez, comme un triangle. Et c'est ce que vous voyez tout en bas de votre vision du bas, de D'accord. l'œil, qui vous permet de quand même de voir qu'il y a un obstacle, en fait. D'accord, D'accord. Et donc, suivant d'après ce que j'ai compris, hein, alors c'est une partie de la réponse, je pense que ce n'est pas toute la réponse, mais c'est déjà une partie de la réponse, suivant la taille des gens, et les moyennes de taille qui sont calculées assez régulièrement si on devient plus petit, plus grand, ce cône de visibilité augmente ou diminue.
D'accord.
Vous voyez ? Donc plus vous devenez, plus la taille moyenne devient grande, plus le cône de visibilité va vers le haut. Donc il faut rallonger les poteaux pour que votre vue, quand vous marchez ou vous êtes sur votre téléphone ou etc., ou vous parlez avec votre interlocuteur qui se balade avec vous, etc., il soit, il voit le poteau. Il soit dans son cône de vision. Donc c'est pour ça qu'on les voit changer souvent, parce que notre taille change. Ça, c'est D'accord. un truc. Et je lui ai posé une deuxième question. Je pense que tu rigoles, mais...
Oui, ce sont les bons trucs par côté.
Ah, mais écoute, c'est... Non, ils étaient très gentils. Ils avaient l'air très, très sincères, de bonne foi. Hein,
oui,
vraiment,
oui, tu peux être un très bon commercial et être de bonne foi.
Non, mais voilà, très gentils. Et aussi, je vais leur demander de nous parler des aménagements urbains, parce qu'ils vendent de tout. Il est le poteau d'éclairage, la poubelle, le banc. Et c'est intéressant aussi de savoir comment ça se passe. Donc, ils viennent aussi nous parler aussi de justement comment sont passés les contrats, comment ça se passe, etc. Et alors, pour finir, pour répondre à ta question, ces fameux poteaux là qui empêchent les voitures de se garer sur les trottoirs, entre autres, ils vont encore changer.
Non.
Si, parce qu'il y a une réglementation européenne qui a changé. Donc tu vas encore avoir de nouveaux poteaux bientôt.
En gros, ça les arrange bien quand même.
Quand tu m'as dit ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Si, si. Et là, ça va. Il y a une réglementation européenne qui a changé par rapport à ces cônes de visuels et les réglementations des poteaux.
D'accord.
Donc, du coup, ils vont encore changer des poteaux.
Ah, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, les amis.
Oui, c'est formidable, c'est formidable. Après, moi, je croyais, c'était naïvement, mais je veux dire, pour me moquer, je me disais, est-ce qu'ils avaient un super catalogue avec tout dedans, les poubelles, les bancs, les formes des bancs, les formes des luminaires. Eux, ils travaillent beaucoup avec de la fonte, et ils m'expliquaient que c'est vrai que la fonte, départ à l'achat, c'est beaucoup plus cher que l'acier, mais ça tient énormément plus longtemps, et ça se recycle beaucoup mieux.
D'accord.
Donc, en matière écologique et en matière économie, investissement, c'était beaucoup mieux d'acheter, si vous m'entendez, messieurs les maires. C'est plus cher à l'achat, mais c'est beaucoup plus rentable après, sur le temps, en fait, et même pour recycler. Et puis, ça demande aussi beaucoup moins d'énergie pour faire un truc en fonte qu'un truc en acier, au niveau de la dépense énergétique, de chauffer les fours, etc. Donc, acheter de la fonte, plutôt. Donc, tout ce qui fait votre aménagement paysager urbain, et qui ne sont pas les arbres, c'est-à-dire eh bien, aussi tout ce qui est écran couleur où on voit les publicités, tout ce qui est luminaires, poubelles, poteaux, enfin voilà, tout ce qu'il y a sur l'espace public, ils font ça. Et je leur ai dit, mais comment ça se passe en fait? Ils ouvrent le catalogue et ils disent, tiens, moi je veux ça, un peu comme le catalogue de jouets pour Noël. Ils passent commande, comme ils font la liste du Père Noël. Ils disent, tiens, moi je veux ça. Mais pas du tout en fait.
D'accord.
Il dit non, c'est vachement réglementé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, monsieur le maire ou le conseil municipal dit qu'il faut remplacer les poubelles par exemple. Et donc du coup, ils passent au marché et après, eux, ils proposent leur matériel et ils remportent ou pas le marché.
D'accord.
Enfin voilà. Okay. Donc ils font pas plouf, oh, il est joli ton catalogue, je vais m'acheter 10 luminaires pour Noël. Bon, voilà, donc c'était super intéressant et ils viendront aussi à la rentrée parler des aménagements urbains, comment ça se passe et est-ce que c'est écologique et qu'est-ce qu'ils font, etc. Et donc j'ai continué mon truc, je suis tombée sur les nouveaux. Alors j'ai eu plein de petits cadeaux parce que alors, déjà quand je suis arrivée, on m'a donné un petit sac.
Oui.
En toile. Et puis j'ai eu des stylos chez monsieur Lafarge. J'ai eu plein de stylos. Je pouvais aussi avoir des porte-clés. Ils avaient des petits casques aussi. Tout mimi en plastique vert. Tout était vert. Les petits goodies étaient verts. Ouais. J'ai dit, vous poussez un peu quand même. Bon, bref.
Il n'y a pas eu de goodies avec marqué à bas la nature?
Non, pas du tout. Rien du tout.
Vive
tout
le
était,
béton.
Oui, non, tout était truc. Donc j'ai eu ça. Et chez NGE, donc les nouveaux générations d'entrepreneurs, j'ai eu un petit carnet. Alors, tu vois, très sympa hein, pour noter mes petits trucs. Machin. Eux, ils sont accompagnés, ils font les réseaux. Et je leur ai posé la question, parce qu'on voit beaucoup leur protection des arbres qui, pour moi, n'est pas suffisante. Et,
oui.
Et loin d'être suffisante. Et donc, je leur ai posé carrément la question. Je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes accompagnés? Donc, ils sont accompagnés par une structure qui s'appelle Arbro Protect et qui leur donne des cahiers des charges de préconisation pour quand ils font les travaux auprès des arbres.
Vous connaissez Arbro?
Je ne connais pas Arbro Protect. Je vais aller me renseigner. Il m'a donné gentiment les coordonnées, tout ça, etc. Enfin, voilà. Ils ont l'air de s'y connaître. Ils font ça par aspiration pour ne pas péter les racines et tout. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est extrêmement pas suffisant par rapport à ce qu'on voit sur les chantiers. Alors, est-ce qu'après, c'est toujours pareil? Le bureau d'études Arbro Protect donne les préconisations, mais est-ce qu'ils les suivent à la lettre? Il y a ça aussi.
Oui. Hein,
on
ne
peut pas non plus...
Oui, à mon avis, ils donnent leurs indications, puis après, l'entreprise, elle fait ce qu'elle veut avec.
Oui, et puis les gens qui sont sur les chantiers, les référents chantiers aussi, est-ce qu'ils suivent à la lettre les préconisations? On ne sait pas. Donc, j'irai me renseigner. Et puis, alors, après, je suis allée voir Colas. Alors, Colas, c'est une entreprise aussi de travaux publics, qui fait les routes et tout ça, etc. Et alors, Colas, formidable, ils ont inventé un nouveau truc qui s'appelle le travaux génie écologique. C'est-à-dire que je suis la dame qui s'en occupe, qui s'appelle Mathilde, là, qui est très très gentille. Alors d'abord, je suis tombée... Mais il faisait un pot. Alors j'ai pas trop voulu m'incruster pour manger des petits fours. J'ai dit pas... T'es merde de quoi? Ben je suis merde de la rue du Mulet. Voilà, donc je suis tombée sur, ils étaient en train de manger, quoi. C'était l'heure du repas, ils faisaient leur petit, ils avaient offert leur petit buffet traiteur avec des petits encas et puis de l'alcool et puis tout ça. Et je suis tombée et je lui ai posé la question, je lui ai dit c'est quoi le travaux génie écologique? Alors je vous fais, parce que je ne suis pas encore allée voir, mais je ferai une émission juste sur ça parce que c'est très intéressant. Comme ils ont les outils, m'a dit cette demoiselle très gentille au demeurant. Et comme ils ont les outils, c'est-à-dire qu'ils ont les tractopelles, ils ont les camions, ils ont le savoir-faire qu'ils font déjà pour faire des routes, etc. Et pour faire des chantiers autres de réseaux ou d'infrastructures, eh bien, ils ont mis ces outils, ils ont en fait, moi c'est comme ça que je l'ai compris, mais ils ont ouvert une nouvelle, un nouveau marché. Ils ont ouvert un nouveau marché, un marché vert, qu'ils ont appelé travaux génie écologique. Et dans ce marché vert, ils proposent contrôler la nature, en fait. C'est-à-dire qu'ils proposent de réaménager, mais sur des grandes parcelles, quoi. C'est pas le petit jardin de chez vous, quoi. C'est des trucs sur des hectares, de réaménager de la nature qui a été détériorée. C'est-à-dire s'il y a un cours d'eau qui doit être un peu endigué, ils vont endiguer le cours d'eau, etc., etc. Mais refaire de la nature, mais à la façon de Colas et à la façon, moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est-à-dire que derrière vous avez aussi un donneur d'ordre, un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage qui dit ben voilà, moi la nature je veux qu'elle soit comme ça. Donc ils refont de la nature, ils refont des cours d'eau, elle m'a expliqué, ils refont des parcelles, ils aménagent, c'est des grands paysagistes de chantier en fait, des grands chantiers de paysagisme avec des grosses structures, mais c'est pas de la nature naturelle, voilà. Pour moi, c'est pas de la nature naturelle, c'est-à-dire qu'il y a encore derrière un marché commercial, bah, tant mieux pour eux, mais bon, c'est un peu biaisé, je trouve. Et deux, c'est faire de la nature, mais sous contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont refaire les paysages comme ils ont envie de les refaire ou comme le maître d'ouvrage va leur demander. Ils vont faire des collines, tu vois, des petits monticules pour faire des collines, des machins, etc. Donc, ils réaménagent une nature qui n'est pas naturelle, en fait, derrière. C'est encore un contrôle du territoire pour moi. Ça a été mon ressenti. Donc c'est des ingénieurs écologues qui s'en occupent. Donc déjà, je trouve que ingénieurs et écologues, ça va pas ensemble. Déjà, je trouve que c'est assez c'est assez contradictoire d'être ingénieur et écologue en même temps. Parce qu'il y en a un c'est très cadré, l'autre c'est bon. Mais bon, ça c'est mon avis personnel à moi, et donc je vais aller creuser le truc, le travaux génie écologique, mais j'ai trouvé ça époustouflant. C'est-à-dire que maintenant, comme c'est la mode des taux verts et que tout le monde hurle pour avoir de la nature, vous allez avoir de nouveaux marchés qui vont se dire verts, mais qui seront un peu pas très verts en fait derrière. Et est-ce qu'ils vont permettre d'améliorer la situation climatique et la situation de la nature ? J'en suis pas persuadée. À l'heure actuelle d'aujourd'hui, avec le peu d'informations que j'ai bien sûr, j'en suis pas quand même intimement persuadée, convaincue que ça va arranger le chimique. Au contraire. Mais bon, je vais creuser ça pour une prochaine émission, Travaux génie écologique, quitte aussi à inviter Mathilde pour qu'elle vienne nous en parler, nous explique comment c'est, comment ça sert et comment... Moi, je suis dépitée, en fait. Je suis sortie de là. Je veux dire, j'ai fini par mademoiselle Colas. Je suis sortie de là et je me suis dit, allez, encore un truc où ils mettent la main dessus, quoi. Voilà. Bon,
en tout cas, c'était très intéressant.
Voilà. Donc, vous avez fait comme moi le petit salon des maires à Bordeaux. Et je remercie la directrice de l'association qui m'a permis d'aller visiter en tant que journaliste à Solutions Nature. Donc, dans 15 jours. Alors, il y a une grande émission, oui. Puisque c'est les 24 heures de la radio, puisqu'après, on fait un petit stand-by d'été, c'est-à-dire qu'un arrêt pour estival, pour les vacances. Donc là, il y a deux grandes journées, le 14 et le 15.
C'est ça, les 24 heures commencent le 14 juin à midi. On va commencer 2 heures par des interviews. Comme la directrice du centre d'animation Saint-Pierre qui va venir nous parler un peu de la situation du centre d'animation qui nous reçoit depuis 2 ans. Voilà le travail qu'ils font, le travail qu'on fait, qu'on a fait ensemble, etc.
Et s'ils veulent toujours de nous.
Pour la saison prochaine.
Voilà.
Ensuite, toi, 14h, toi, ton émission.
Oui, 2 heures d'émission.
Que tu es en train de construire.
Oui, voilà. Donc, ce serait une émission de débat avec des citoyens et des non-citoyens qui veulent venir nous parler de leur rapport à la nature et justement de leur constat de pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les a choqués, qu'est-ce qui les a rassurés, etc. Oui. Donc parler de ça là pendant deux heures. Donc voilà. Écrivez-nous si vous voulez faire partie de ce petit panel d'auditeurs qui donnent leur avis.
Voilà, et donc du coup on finira le samedi 15 juin à midi.
Oui, alors ce
qui est marrant, grosse matinale.
Voilà, moi je viendrai les réveiller à 6 heures avec les croissants.
oui, donc ça va être...
ça va être épique.
Moi ce qui me tarde, c'est que tu vois l'état dans lequel
oui,
on sera.
Oui, c'est ça, moi aussi, il me tarde de voir votre tête, je vais faire des photos, hein, je te le dis. La nature à 6 heures du matin,
c'est
va être
remettre.
Je ne sais pas si elle va être.
Ah ben, on sera.
Il va falloir appeler Mathilde de Colas, qu'elle fasse des
ça
gros travaux.
Naturel. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est le 14 juin dans.
15 jours à peu près.
Ouais, à peu près.
Et voilà, on compte sur vous.
Et à bientôt Valérie.
Mais à bientôt Samuel et écoutez, prenez le soleil et écoutez les oiseaux.
Allez, à bientôt.
Allez, ciao.
Wanted Radio. Première sur la nature en ville.
Let's do it.
Wanted Radio.
Hit it.
En toute indépendance.